VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 19h à Kigali. Bienvenue à notre journal. On commence par la politique ici aux États-Unis. Washington a annoncé des représailles contre la Russie ou n'importe quel gouvernement étranger qui tente de s'immiscer dans le processus électoral américain. Les détails avec Timothée Donangmaï.
Lors d'un entretien à la Maison-Blanche avec le réseau américain de radio publique NPR, Barack Obama a affirmé que l'ingérence apparente de la Russie dans le scrutin du mois dernier exige une réponse.
I think there is no doubt that when any foreign government tries to impact the integrity of our elections,
à mon avis, il ne fait aucun doute lorsqu'un gouvernement étranger essaie d'affecter l'intégrité de nos élections qu'il faut réagir. Et nous déciderons où et quand nous le ferons. Cette réaction peut être publique ou secrète. Mais M. Poutine sait très bien quels sont mes sentiments à ce sujet parce que j'en ai parlé directement avec lui, a dit le président américain. La CIA a conclu que des pirates russes ont eu accès au système informatique du Parti démocrate afin de faire fuiter des messages potentiellement embarrassants pour la campagne d'Hillary Clinton. C'était dans le but apparent, selon l'agence, d'aider le candidat républicain Donald Trump à remporter la présidentielle du 8 novembre. Pour la Maison-Blanche, de tels actes ne sauraient avoir lieu sans l'implication directe du président Poutine, une accusation qualifiée de stupide par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Si la Russie ou quelque autre entité a commis un tel acte de piratage, pourquoi la Maison-Blanche a-t-elle attendu si longtemps avant d'agir? Pourquoi, après la défaite de Mme Clinton, s'est interrogé de son côté Donald Trump sur Twitter?
Conflit en Syrie, le régime du président syrien Bachar al-Assad a suspendu ce vendredi l'évacuation de civils et d'insurgés de la ville ravagée d'Alep, faisant craindre une reprise des combats pour la conquête de la dernière poche rebelle de la grande métropole du Nord, où des milliers d'habitants restent pris au piège. Les détails avec Tatiana Mosso.
Lancée jeudi, cette opération d'évacuation devait durer plusieurs jours et permettre au régime de proclamer la reprise totale de la deuxième ville de Syrie et d'enregistrer sa plus importante victoire dans le conflit qui dure depuis 2011. La Syrie, alliée du régime, a annoncé que l'évacuation des rebelles et de leurs familles était terminée et que les troupes syriennes étaient en passe de liquider les dernières poches de résistance à Alep. Mais selon l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, il reste environ 40 000 civils dans le réduit rebelle et entre 1 500 et 5 000 combattants et leurs familles. Depuis jeudi, environ 8 500 personnes, dont 3 000 combattants, ont été évacuées vers des territoires sous contrôle rebelle, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Quelques 8 000 selon les médias officiels syriens. À Alep, un convoi de plus de 800 personnes évacuées a ainsi été forcé de retourner en zone rebelle par des miliciens chiites pro-régime.
Ce vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir pour parler d'Alep, alors que les États-Unis avertissent que cette cité risque de devenir une autre Srebrenica, ville de Bosnie où fut commis en 1995 le pire massacre en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique maintenant, en RDC, les discussions politiques entre le pouvoir et l'opposition sous la houlette de la CENCO, la conférence des évêques catholiques du Congo, sont au point mort ce vendredi, à 3 jours de la fin du mandat du président Joseph Kabila. À la base, de nombreux points de divergence entre les deux camps, notamment sur la date des élections présidentielles et l'avenir du président Kabila après le 19 décembre 2016, date d'expiration de son deuxième et dernier mandat. Les évêques ont résolu d'entrer en contact directement avec le président congolais, puis Étienne Tshisekedi, le leader du rassemblement de l'opposition, pour décanter la situation. Le point avec Gino Rema de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Dans toutes les commissions, les divergences ont persisté, ce qui justifie même le blocage de travaux depuis le matin. À la commission élections, les délégués ne se sont pas entendus sur les calendriers et la séquence des élections. À la commission décrispation politique, les membres du rassemblement souhaitent la libération de certains prisonniers qu'ils qualifient des politiques et la fin de poursuites judiciaires contre certains politiques. Et à la commission gouvernance des institutions, la plus grande question, c'est la gestion du pays après le 19 décembre. Si au niveau de travaux, on est bloqué, il appartient maintenant aux évêques d'organiser un échange direct entre le président de la République, Joseph Kabila, et le président du comité des sages du rassemblement, nous a dit hors micro un des délégués. Jusque-là, à la CENCO, aucune présence des évêques membres du présidium. Ils s'y racontent qu'ils sont allés à la rencontre du président de la République avant d'aller retrouver le président Étienne Tshisekedi. Les délégués, eux, se présentent chacun à son tour à la CENCO. Depuis Kinshasa, Gino Réma de Top Congo FM pour VOA Afrique.
RCA, la violence s'accroît dans le pays malgré la mise en place de nouveaux gouvernements après l'élection de Faustin Archange Touadéra à la présidence début 2016. C'est ce qu'affirme la MINUSCA, la force onusienne de maintien de la paix sur place, dans un rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon le document, la nouvelle administration entrée en fonction en mars n'a qu'un contrôle limité en dehors de la capitale Bangui et n'a pas réussi à convaincre les dizaines de groupes armés présents dans tout le pays à déposer les armes. Au Soudan du Sud, l'opposition sud-soudanaise a salué aujourd'hui l'appel du président Salva Kiir à un dialogue national visant à rétablir la paix 3 ans après le début de la guerre civile. Mais les opposants sont contre le fait que ce dialogue soit mené par le chef de l'État, a déclaré dans un communiqué Niaoye Woman, porte-parole de l'opposition. Mercredi, le président Kiir avait lancé un dialogue national ouvert à tous. Il avait promis de garantir la sécurité de tous les acteurs qui y participeraient, y compris ceux qui sont actuellement hors du pays et qui sont contre son gouvernement. Le discours du président Kiir, au cours duquel il a notamment demandé à ses concitoyens de le pardonner pour toutes les erreurs qu'il pourrait avoir commises, intervient alors que les violences s'intensifient ces dernières semaines dans le pays.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Burkina Faso, des hommes lourdement armés ont attaqué tôt ce vendredi les positions de l'armée burkinabé dans le nord frontalier avec le Mali. Le bilan fait état de 12 militaires burkinabés tués. Plus de détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ronogo.
Une fois de plus, le nord burkina a été frappé par une attaque terroriste, a révélé le président du Faso, Roch Marc Christian Kabore.
Aujourd'hui, 16 décembre 2016, aux environs de 5h30, dans la ville de Nassoubou, située dans la commune de Djibo, à proximité de la frontière avec le Mali, un détachement du groupement des forces antiterroristes de notre armée a subi une attaque meurtrière qui a coûté la vie à 12 de nos valeureux soldats et fait des blessés. Par la même occasion, des véhicules et des munitions ont été détruits et des bâtiments incendiés.
Cette énième attaque meurtrière rappelle à souhait que la lutte contre la nébuleuse terroriste est sans répit et nécessite une conjugaison et une synergie d'action de tous les Burkinabés. Et selon les mots du président du Faso, jamais dans l'histoire, le vaillant peuple burkinabé n'a courbé les chines devant ses ennemis. La génération actuelle ne trahira pas son rôle historique. Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Côte d'Ivoire, quelques 6 200 000 Ivoiriens sont attendus dimanche aux urnes pour des élections législatives qui devraient conduire à une forte majorité des partisans du président Alassane Ouattara au terme d'une semaine de campagne électorale plutôt terne qui s'achève aujourd'hui. Quelques 30 000 membres des forces de sécurité seront déployés pour le scrutin. La coalition présidentielle, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, vise la majorité absolue à l'Assemblée, composée de 255 députés, alors qu'elle doit faire face à des frondeurs dans son propre camp qui participent au scrutin sous l'étiquette d'indépendant. Gambie, l'ONU a annulé la visite aux troupes gambiennes faisant partie de la force internationale déployée dans la province soudanaise du Darfour que devait effectuer le chef d'état-major gambien le 20 décembre. Cette annulation intervient alors après que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, eut condamné la prise de contrôle des locaux de la commission électorale indépendante de Gambie par l'armée gambienne mardi, dans une période de transition entre le président Yahya Jammeh et son successeur élu Adama Barrow, où les militaires gambiens doivent faire preuve de neutralité, a souligné l'organisation internationale. Rappelons que le même mardi, le chef d'état-major, le général Ousmane Badié, est arrivé aux discussions avec une mission de 4 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest venus tenter de convaincre le président Djamé de céder le pouvoir en portant sur son uniforme un badge du chef de l'État sortant et en affirmant qu'il soutenait le commandant-chef, le président Yahya Djamé. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.